Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 23h30 à Kinshasa, 22h30 à Accra et en temps universel.
Afrique Soir.
Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. La consternation au Ghana, le marché de Katamanto, l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest de vêtements d'occasion, est parti en fumée, dévasté la nuit dernière par un incendie. En Guinée, 2 ans de prison ferme requis contre Aliou Ba, le président du modèle Le Mouvement Démocratique Libéral, est jugé pour offense et diffamation envers le chef de l'État. Dans l'est de la République démocratique du Congo, de nouvelles attaques des ADF dans le territoire de Lubero. Un cinglant démenti aux affirmations du président ougandais Yoweri Museveni, selon lesquelles ce groupe rebelle aurait été neutralisé. 2025 peut être l'année du renouveau pour le rugby de Côte d'Ivoire. Le nouveau président de la fédération, Lucas Corré, vient de prendre ses fonctions. Il met fin ainsi à 4 ans de crise. Un enfant de 8 ans retrouvé sain et sauf après avoir passé 5 jours dans une réserve animalière du nord du Zimbabwe où il s'était perdu. Nous vous raconterons cette histoire. Et puis enfin, musique avec la sélection de DJ Facemaker alias Hervé Mandina. Voilà pour votre programme. Au Ghana, le célèbre marché de Katamanto, le plus grand marché de vêtements de seconde main du pays et l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest, a été en grande partie détruit par un incendie la nuit dernière. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les causes du sinistre. Et si, selon les pompiers, aucune victime n'est à déplorer, ce sont des milliers de commerçants qui ont vu du jour au lendemain perdre l'intégralité de leurs revenus. Reportage auprès des sinistrés à Accra de Victor Carillou.
Debout, au milieu de ruines encore fumantes, entouré d'une foule de ferrailleurs récupérant les débris, Isaac Ofori, vendeur de t-shirts et de jeans au marché de Katamanto, se tient en face d'un tas de cendres. Après cet incendie d'une ampleur inédite, c'est tout ce qu'il reste de sa boutique et de sa marchandise.
Ma boutique a brûlé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me sens mal, vide.
Empty.
J'ai perdu mon argent, mon commerce a disparu. Donc oui, je me sens vide.
Empty.
Comme Isaac Ofori, il serait 10 000 travailleurs environ à être directement ou indirectement impactés par ces destructions, selon un premier bilan réalisé par des organisations professionnelles. Pour Kofi Poku, commerçant dont l'entièreté du stock est partie en fumée, il sera impossible de sortir seul de cette crise.
Je ne sais pas où je vais pouvoir trouver de l'argent pour lancer un nouveau commerce. Donc il faut que le gouvernement nous aide, nous soutienne, parce que tout est détruit.
Outre les boutiques, les flammes ont emporté avec elles l'une des sources principales d'habillement d'une large partie de Ghanéens, précaires ou non. Un véritable symbole réduit à néant. En témoignent les nombreux clients venus constater les dégâts au lendemain de l'incendie, pour beaucoup les larmes aux yeux. Victor Carillou, Accra. RFI.
Direction à présent la Guinée, où 2 ans de prison ferme ont été requis contre l'opposant Aliou Ba. Le président du modèle est jugé au tribunal de première instance de Kaloum à Conakry pour offense et diffamation envers le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À Conakry, le compte-rendu d'audience de Mokhtar Ba.
C'est dans une salle d'audience archi-comble que Aliou Ba a fait son entrée sous bonne escorte. D'entrée de jeu, un malentendu a opposé la défense au tribunal sur l'absence des avocats de la partie civile. Les représentants du chef de l'État diffamé ont créé le vide, laissant libre cours aux avocats de la défense et leur permettant de plaider la cause de leur client. Pour sa défense, ils ont dit que Aliou Ba est victime de son engagement politique. Selon eux, l'opposant est poursuivi pour ses opinions politiques et son engagement pour le respect des engagements pris par la junte au pouvoir à Conakry, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel. Fin de citation. Le collectif a pris pour exemple la disparition forcée des activistes de la société civile dont du FNDC, Fonike Mangé et Bill Loba, enlevés nuitamment et gardés au secret jusqu'à nos jours. Le procureur, lui, a requis 2 ans de prison ferme contre Aliou Ba, provoquant des désapprobations de la salle d'audience jusque-là silencieuse. Mokhtar Ba, Conakry, RFI.
En bref, ce record, le nombre de migrants clandestins arrivés l'an dernier dans l'archipel espagnol des Canaries, qui est l'une des principales voies d'entrée en Europe, a atteint le chiffre historique de 46 843, c'est-à-dire une hausse de plus de 17% sur un an, selon les données publiées aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur espagnol. Et puis au moins 27 migrants venant d'Afrique subsaharienne sont morts. 83 autres ont été secourus hier au large des côtes de Tunisie après le naufrage de deux bateaux qui tentaient de rallier l'Europe. Les bateaux étaient partis de Sfax dans la nuit du 31 décembre.
RFI à Dakar, 92 FM.
Au Sénégal, quel avenir pour l'Alliance pour la République, l'APR et sa figure tutélaire Macky Sall, après avoir quitté le pouvoir en avril, été élu député en novembre, puis après avoir démissionné de son mandat dans la foulée, l'ancien président compte se mettre en retrait du parti, désormais dans l'opposition. Mais Macky Sall, tout comme l'APR qu'il préside, regarde désormais vers l'avant. Gwenda Lavina.
C'est l'ancien président qui confirme aux médias en ligne confidentiel Dakar sa volonté de se décharger de ses fonctions politiques au sein de l'APR. Son entourage, contacté par RFI, explique que Macky Sall veut prendre du recul. L'un de ses proches indique qu'il devrait ainsi se voir proposer la présidence d'honneur de l'APR pour maintenir un lien avec le parti sans pour autant gérer son fonctionnement au jour le jour. Cela permettrait à Macky Sall de se dégager du temps pour ses activités à l'international. Une réunion des cadres du parti a eu lieu la semaine dernière pour réfléchir au futur mode de gouvernance, confirme à RFI l'un des participants. Mais il n'est pas encore question de parler d'héritage de l'ancien chef de l'État, précise cette source, qui reconnaît tout de même qu'après 12 ans au pouvoir, c'est, je cite, la fin d'un cycle et nécessaire de réfléchir à de nouveaux objectifs. Après une lourde défaite lors des élections législatives de novembre, l'APR se veut néanmoins être la tête de l'opposition. Tous ces changements amorcés lors du congrès extraordinaire de décembre 2023 seront entérinés rapidement. Aucune date exacte n'a pour le moment été communiquée, mais un congrès devrait avoir lieu dans les prochains mois. Gwenda Lavina, Dakar, RFI.
Et restons dans l'ouest du continent, Côte d'Ivoire, Abidjan. 37% des décès liés aux accidents de la route concernent des deux roues. Ce chiffre alarmant, révélé par le ministère des Transports, pousse aujourd'hui les autorités à agir. Désormais, ces engins sont interdits sur les grandes artères, à commencer par le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Mais comment cette mesure est-elle perçue par les principaux concernés, autrement dit, les livreurs à moto? C'est un reportage à Abidjan d'Abdoul Aziz Diallo.
Si je n'interdis les motos dans les boulevards, qu'est-ce que nous on va faire? On va rester à la maison?
Aboubakar Sidik s'exprime alors qu'il récupère un colis dans une grande surface de Cocody. Étudiant, il complète ses revenus grâce à la livraison. Mais depuis le début du mois, lui et ses collègues ne peuvent plus emprunter la VGE, cette voie stratégique reliant les communes du sud d'Abidjan. Leur seul recours sera d'utiliser les routes secondaires. Une option qui ne rassure pas Aboubakar.
Ça va nous ralentir. Tu peux avoir des individus qui peuvent t'arracher la moto, te braquer. Mais quand c'est les grandes voies, tu vois que c'est un peu facile puis c'est très rapide.
Boris, un autre livreur, partage son inquiétude. Mais il propose une alternative, aménager des voies réservées aux deux roues.
Sur les boulevards, la circulation est très dense. Parfois, il peut y avoir une panne ou bien la moto peut se teindre d'un coup. Forcément, le véhicule de derrière va vous percuter. Or, si vous êtes sur une voie qui est appropriée, qui a été aménagé pour les engins à deux roues, chacun va en tirer profit.
Le ministère des Transports promet des mesures complémentaires. Des contrôles renforcés seront déployés pour vérifier le port du casque, les permis, les assurances, les vignettes et le respect des feux tricolores. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Vous écoutez Afrique Soir, 22h37 en temps universel. Des nouvelles attaques attribuées aux rebelles des ADF ont été signalées dans le territoire de Lubero, c'est dans l'est de la RDC. Au moins 68 civils ont péri lors de raids simultanés. Ils ont ciblé plusieurs villages situés au nord de Goma, dans la province du Nord Kivu. Héritier Baraka.
Ce bilan lourd est présenté par Mwami Kaindo Nzanzu Bonane, chef de la chefferie de Bassoa dans le territoire de Lubero. Les victimes ont été tuées à la machette dans des incursions qui ont touché les groupements Manzia, Luongo et Mwenye du 30 décembre 2024 jusqu'à aujourd'hui selon ses responsables locaux. Un bilan encore provisoire qui pourrait encore s'alourdir car les recherches des victimes continuent dans la brousse. La majorité des corps n'ont pas été inhumés jusqu'ici. Le colonel Ale Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, affirme que la coalition constituée des armées congolaises et ougandaises a été déployée dans la zone pour mettre fin à ces attaques.
Beaucoup de ces entités ont été vidées de leur population. Il y a l'armée, il y a la coalition PDF, et FARDC qui en sont déployés pour cette mission. Mais les terroristes s'est divisé maintenant en plusieurs groupes. C'est un peu la difficulté, mais je sais que cette coalition fera quelque chose de bien afin que la quiétude puisse revenir dans ces entités.
Depuis juillet 2024, les ADF alliés à l'État islamique ont multiplié des attaques dans les territoires de Lubero, une zone qui n'avait jamais été touchée par ces djihadistes. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et lors de ses vœux du nouvel an, le président ougandais Yoweri Museveni a assuré que le groupe islamiste des ADF, originaire de son pays, avait été neutralisé. L'annonce avait surpris car on l'a entendu depuis quelques semaines dans les régions congolaises frontalières de l'Ouganda. On observe une recrudescence des attaques des membres de l'ADF. Alors comment expliquer que les atrocités persistent en territoire congolais? Écoutez Stuart Muindo, il est militant de l'organisation citoyenne Lucha et il répond à Nicolas Sur.
Cette déclaration, je crois, elle montre plus ou moins le contraste entre la situation sécuritaire en Ouganda et au Congo. Les opérations militaires menées par l'armée ougandaise sont en réalité pour le bien de la protection de la population ougandaise et non de la population congolaise qui continue à être massacrée par les ADF.
Oui, car les attaques des rebelles sont quasi quotidiennes au nord Kivu notamment. Et donc pour vous, ça veut dire que ces rebelles se sont enfoncés en territoire congolais, loin de la frontière.
C'est exactement ce qu'on constate, parce qu'il y a des entités, notamment la chefferie de Bapere en territoire de Lubero, qui jadis n'avaient jamais été attaquées. Donc ça veut dire que les ADF qui étaient au pourtour de la frontière entre le Congo et l'Ouganda n'ont pas été neutralisés par l'armée ougandaise. Ils ont juste été repoussés au fond du Congo et c'est là où se déroulent des massacres des civils pour l'instant.
Et dans ces zones, l'opération conjointe lancée par Kampala et Kinshasa n'est pas active?
Alors, elle n'est en tout cas pas active jusqu'à couvrir l'étendue de la surface où l'effluence des ADF s'étend. Donc, on constate que l'armée ougandaise se déploie essentiellement là où il y a les intérêts ougandais, c'est soit autour de la frontière, soit autour des projets routiers qui sont menés par l'Ouganda, notamment la route Kasindi-Beni-Butembo. C'est exactement ça qui est problématique, qui montre qu'en réalité, les forces ougandaises ne sont pas là pour neutraliser les ADF ou pour protéger les populations congolaises, mais c'est plutôt pour protéger l'Ouganda et ses intérêts à partir du territoire congolais.
Il y a un autre mouvement actif au nord Kivu, c'est l'Alliance Fleuve Congo, dont la rébellion du M23 est membre. A-t-elle des liens, cette AFC, avec les ADF?
Alors, jusque-là, il n'y a pas de lien documenté entre les deux groupes armés. Mais ce qui est quand même frappant, c'est de voir le fait que chaque fois que l'Alliance Fleuve Congo, qui est attachée au M23, relance ses attaques à Lubero, on sent en fait aussi qu'il y a une intensification de tueries à Beni, notamment de la part des ADF. Donc, cette action pourrait faire penser qu'il existerait des liens entre les deux groupes armés et que, évidemment, l'objectif, c'est d'agir au même moment afin de disperser les efforts de forces armées congolaises sur les deux fronts et ainsi essayer d'avancer plus ou moins. Mais comme je l'ai dit au début, jusque-là, il n'y a vraiment pas d'enquête sérieuse qui puisse déterminer les liens entre les deux groupes armés. C'est juste cette coïncidence opérationnelle qui, pour moi, n'est pas anodine.
Stewart Muindo, militant de l'organisation citoyenne Lucha, avec Nicolas Sur dans Afrique Midi. On en vient à la crise au Mozambique. Le candidat malheureux à la présidentielle, Venancio Mondlane, a annulé ce soir l'allocution qu'il devait prononcer. Pardon. Excusez-moi, sur. Voilà, on s'est retrouvé. Donc, je le disais qu'au Mozambique, le candidat malheureux à la présidentielle a annoncé l'allocution qu'il devait prononcer sur Facebook. Elle concernait les modalités d'une nouvelle phase de la contestation. Car depuis près de 2 mois, la rue mozambicaine est en colère. Elle se mobilise pour rejeter les résultats des élections générales du 9 octobre qui ont reconduit à la présidence le Frelimo. La crise a déjà provoqué le départ de près de 3000 Mozambicains dans les pays voisins. Gaël Alex.
Ils sont près 1 000 000 à avoir traversé la frontière pour rejoindre l'Iswatini, selon une note interne des autorités du royaume publiée aujourd'hui et que l'agence Lusa a pu consulter. Ces Mozambicains sont arrivés au cours des 2 derniers mois au centre pour les réfugiés de Malinza vers la frontière et proviennent de différentes régions du pays. D'après l'UNHCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, le centre de Malinza, dont la capacité initiale est de 250 personnes, est aujourd'hui débordé. Les Nations Unies sont actuellement actuellement en quête de financement pour accueillir de nouveaux arrivants. La situation est similaire plus au nord, au Malawi, où près de 2000 réfugiés mozambicains sont arrivés en une seule semaine, selon l'UNHCR. Certains ont fui les attaques et pillages de leur village. Beaucoup ont traversé à la nage ou sur des bateaux de fortune la rivière Chiré entre les deux pays. Ces réfugiés prennent de gros risques, affirme Chanza Kapaya, directrice régionale de l'UNHCR pour l'Afrique australe, notamment celui de perdre leurs moyens de subsistance et de dépendre de l'aide humanitaire. Gaëlle Alex Nairobi, RFI.
Des réactions à l'abolition de la peine de mort au Zimbabwe. Volker Türk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, salue aujourd'hui cette décision, mais il appelle le gouvernement du Zimbabwe à faire un pas de plus, dit-il, en supprimant la disposition qui autorise le rétablissement de la peine capitale en cas d'état d'urgence. Le Zimbabwe, encore avec cette histoire digne d'un conte de Noël, un enfant de 8 ans a survécu 5 jours parmi les bêtes sauvages alors qu'il s'était perdu dans une réserve animalière du nord du Zimbabwe. Willy Diallo, les rangers l'ont découvert sain et sauf. Racontez-nous cette histoire.
Ça leur a pris 5 jours. Imaginez ce petit garçon de 8 ans perdu à plus de 20 km de chez lui, au milieu des lions, éléphants ou encore des léopards. Sa survie, Tino Tenda la doit à ses connaissances de la nature. Il s'était réfugié sur un rocher en hauteur. Pour se nourrir, il mangeait les fruits sauvages qu'il trouvait autour de lui et pour l'eau, il creusait des petits puits dans des lits de rivière asséchés. Tous les soirs, les habitants du village de Nyaminyami, à la lisière de la réserve, battaient des tambours en espérant que le garçon les entende et retrouve le chemin de la maison. Au bout de 5 jours, Tino Tenda a entendu un bruit de voiture et a accouru vers elle. Malheureusement, l'enfant affaibli est arrivé trop tard et n'a pu voir que les traces d'un véhicule qui se déplaçait hors du sentier. C'était un groupe de gardes forestiers qui, sur le retour, ont remarqué les petites traces de pas humains le long de leur chemin. Ils ont suivi ces traces et c'est comme ça que Tino Tenda a finalement été retrouvé et ramené au village sain et sauf.
Merci Willy Diallo. Les sports à présent et le rugby ivoirien qui débute 2025 en fanfare avec un nouveau président de fédération. Il a été élu le 21 décembre. Lucas Corré et son prédécesseur Elvis Tano ont fait la passation de pouvoir, c'était à la veille du nouvel an, et c'est l'épilogue d'un processus qui aurait été émaillé de tensions, une sortie de crise en quelque sorte après 4 ans de dissension, et surtout une opportunité pour Lucas Corré de donner un nouveau souffle au rugby ivoirien à Abidjan, Mo Lamine Sissavane.
Lucas Corré prend les rênes de la Fédération ivoirienne de rugby à l'issue du 3e tour d'une élection serrée et tendue. Pour celui qui a joué dans les années 90, période de l'unique participation ivoirienne à une Coupe du Monde, le niveau du rugby ivoirien est en cause.
Notre objectif est de ramener ce niveau-là qui était d'antan, mais qui passe d'abord par la formation des jeunes, par la structuration des compétitions et par le développement sur tout le territoire de cette pratique de rugby.
Pour ce vaste chantier, le nouveau patron de la fédération dit avoir besoin de tous les acteurs ivoiriens du rugby au plan national et international. L'ex-international Bakary Meïté, proche de Lucas Corré.
L'idée, c'est vraiment de pouvoir repartir sur des bases un peu plus saines, relancer le championnat, inclure tous les clubs qui étaient mis de côté. Il y a vraiment beaucoup de travail, mais c'est plaisant parce qu'on se dit qu'il y a des choses à faire et on va s'y atteler.
Mais le tout premier chantier de Lucas Corré est celui de la réunification de la famille du rugby.
Nous étions sous des joutes vraiment très tendues. La quasi-totalité des clubs qui ont voté mon adversaire m'ont tout de suite appelé pour me féliciter. Et nous, on fera les bras ouverts pour mettre en place le développement qu'il faut.
Développement articulé autour de 10 axes, dont les réformes, la formation et le financement, avec en point de mire la Coupe du Monde de 2031. Mo Lamine Sissavane, Abidjan, RFI.
Depuis le 31 décembre, l'importation de poulet congelé au Bénin est interdite dans l'objectif de favoriser le développement de l'élevage local. Le Bénin importe plus de 100 000 tonnes de poulet congelé chaque année. Cette mesure satisfait la filière, même si des interrogations subsistent. C'est Afrique Éco avec Charlotte Cossé.
L'essentiel est de produire, d'avoir les poulets pour qu'il n'y ait pas manque de poulets sur le marché. Donc, je pense que je suis en train de m'apprêter pour ça.
Ospisak Povo élève des poulets de chair depuis 2018. À l'issue de l'annonce des autorités, il n'hésite pas et engage rapidement des aménagements de son exploitation sur fonds propres et grâce à du microcrédit.
Je faisais les poulets chers, mais pas en quantité comme ça. Je faisais 2000, 3000. Mais vu qu'il y a l'interdiction des poulets congelés en cours, j'ai aménagé déjà deux bâtiments Les bâtiments seront entièrement mécanisés.
Un optimisme que veut partager l'interprofession avicole du Bénin, Léon Anago, son président.
Même en 2025, les acteurs sont à même de produire déjà pour la consommation locale. Nous avons déjà fait une cartographie. Nous avons déjà les modules, les bâtiments, les infrastructures ont commencé déjà à être mis en place. Les modules de 5 000, de 10 000 et que nous voulons mécaniser. Donc, à ce niveau, aucun problème. Nous avons quelques déficits en poussins, mais d'ici à la fin du premier semestre, il y a des industriels qui sont déjà installés au Bénin. Et par rapport à leur projection, le Bénin sera autosuffisant en matière de poussins d'un jour.
Malgré tout, des questions se posent encore. La disponibilité et les prix de l'alimentation en cas d'explosion de la production de volailles, la mécanisation des exploitations, l'accès au financement pour les éleveurs ou encore les besoins d'abattoirs en quantité suffisante. Autre sujet de préoccupation, les importateurs joueront-ils le jeu?
Notre souhait, nous, au niveau de l'interprofession, c'est que les importateurs deviennent des experts en distribution. Parce que c'est des gens qui, non seulement ils ont la maîtrise, ils ont des champs froids, ils ont la maîtrise de la conservation de ce produit-là. C'est eux qui l'importaient, c'est eux qui distribuaient mieux. Ça, c'est un travail que l'interprofession va se donner. Nous allons nous rapprocher d'eux pour que nous ayons des contrats au lieu d'être importateurs qui se reconvertissent dans la distribution.
Tout en rappelant que cette initiative est la troisième de ce type, l'interprofession salue la position volontariste des autorités. Hospice Akpovo lui espère que le marché va suivre pour pouvoir rentabiliser d'ici quelques années ses investissements.
Et c'est l'heure de vous retrouver, vous, l'ambianceur d'Afrique Soir, Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, pour bien démarrer l'année. Bonsoir Hervé, et tout d'abord, bonne année.
Bonne année, bonne année à tout le monde.
Et bonne année à vous Sylvie, bonne année à tous nos auditeurs et mes meilleurs voeux pour 2025.
Et en ce jeudi 2 janvier, vous avez listé les artistes afro-urbains à suivre en 2025. On va commencer par le titre Fiesta de la chanteuse burkinabé Tania, ça part bien. Hein,
oui, celle qui se faisait appeler Miss Tania il y a encore peu de temps n'a rien perdu de son titre de diva. Toujours une référence en termes de créativité musicale, la native de Saint-Quencé a dévoilé le morceau Fiesta pour la traversée de fin d'année. Alors si vous le pouvez, regardez le clip et vous verrez le célèbre comédien ivoirien Go y faire une apparition très remarquée.
Hey bro, sors les jetons. En cabine, DJ, vas-y, monte le son. On fait le show jusqu'à l'heure. Coule les shampoos pour un gogo. Tous nos problèmes à la maison. Personne va nous arrêter. Ce qui est sûr, nous on est calé. On est là pour s'enjailler.
Fiesta donc, et les festivités qui se poursuivent, hein, cette fois au Gabon, où vous nous emmenez Hervé, avec le chanteur Jay qui fait son retour en solo pour la nouvelle année, avec cette chanson, Viens.
Oui en effet, Jay Respect Me est bien connu du public pour ses refrains généreux en notes aiguës et autres envolées lyriques. C'est d'abord dans le collectif BGMFK qu'il a fait ses armes, et depuis quelques années maintenant, en solo. Et le chanteur, il a quand même un peu brouillé le public avec des morceaux tantôt gospel, tantôt grand public, mais il semble s'être enfin décidé pour cette année. Voici le titre, Viens.
Viens, moi je préfère t'écouter, en plus ça me coûte rien. Coûte que coûte, avec toi je shoot dans le tas. T'as la technique, t'as les comptes, t'as les schémas. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, je ne suis qu'un. dans ce qu'on vit, ce que tu me dis. Je veux plus voir ailleurs, couper tous les liens qui peuvent stopper ce qu'il y a entre toi et moi. Bébé, t'es mien, tu m'appartiens. Tiens, 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 tiens. Oh.
On va passer, Hervé, à la séquence rétro du jeudi. Elle se poursuit en 2025, bien sûr. Et c'est notre moment préféré à tous, on va pas se mentir. Retour en 1980, l'année où Bob Marley and the Wailers ont sorti l'opus qui sera à tout jamais leur dernier album, Uprising.
Oui, et la dernière chanson de cet album, considérée comme l'une des œuvres fondatrices de Bob Marley, est le titre Redemption Song. Au moment où Bob Marley a composé ce titre en 79, on lui avait déjà diagnostiqué un cancer localisé au niveau de l'orteil qui plus tard se généralisera. Redemption Song, inspiré d'un discours prononcé en 1937 par Marcus Garvey, militant afro-américain des droits civiques, est une représentation du combat interne que Bob Marley menait contre la maladie.
All pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book.
Won't you have to sing?
Et c'est toujours une bonne idée d'avoir Bob Marley dans sa playlist. C'est déjà le moment de conclure ce rendez-vous, Hervé, avec une ambiance beaucoup plus romantique, celle du chanteur congolais Gali et sa chanson « Ton cœur, mon cœur ».
Oui, Gali, c'est le nouveau crooner congolais. Il s'illustre avec le morceau « Ton cœur, mon cœur », à mi-chemin entre rumba congolaise et afro-pop. La chanson s'impose comme un hit de début d'année qui respire l'amour. De très bon augure pour le prochain album de Gali qui sera dévoilé au courant de cette année.
Tu sais tout ce que je ressens. De toute façon, c'est toi la cause, la raison pour laquelle mon cœur m'abandonne. Et je défendrai toutes tes causes et j'habiterai dans tes pensées. Plus jamais tu te sentiras toute seule, je serai là. De tes défauts, je m'en fous. Ce que les gens disent, je m'en fous. Anayo, c'est entre toi et moi, le reste on s'en fout. Bébé Kota, Nana Makila, Bébé Yoka, Oyana Zoloma.
Un peu de tendresse pour débuter cette nouvelle année 2025. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe d'Afrique Soir, à la réalisation ce soir, Jonathan Brady. Restez à l'écoute, l'info revient dans un peu plus d'une trentaine de secondes sur la radio du monde. Bonne soirée à vous et merci de votre fidélité.
Priorité santé. Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Comme chaque semaine, un sujet de santé au féminin est traité de manière pratique. Ce vendredi, les troubles musculo-squelettiques. Ces douleurs se manifestent par des gènes au niveau des articulations lors des mouvements. Une rhumatologue répond aux questions des auditrices.
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU sur RFI.